J'aimerais que vous fassiez comme cette personne, que vous fermiez vos yeux et que vous réfléchissiez à une image qui vous vient en tête en pensant à l'Église. Fermez vos yeux et réfléchissez à une image. C'est quoi l'Église pour vous? Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. J'aimerais vous entendre maintenant. À quoi vous avez pensé? Qui a pensé au corps? Personne? Ah, quand même, le corps du Christ. C'est probablement l'image la plus répandue dans le Nouveau Testament, donc c'est logique. Quelle est l'autre image à laquelle vous avez pensé? La croix. Alors la croix, c'est pas encore l'image de l'Église exactement en tout cas. Oui, c'est lié, mais pas totalement. L'épouse, ok, l'épouse de Christ. Il y en a d'autres? Qui a pensé au temple? Il y en a? Et quoi d'autre? Il y en a d'autres qui ont songé à des images?
Famille.
La famille. Personne a pensé à la bergerie? Pourtant, c'est quoi une église? C'est composé de brebis qui ont un divin berger, qui sont conduits par des sous-bergers, hein, c'est des anciens. Nous sommes des sous-bergers parce qu'on est soumis au grand berger. Donc la bergerie. Qui a songé à la vigne? Personne. C'est pas une image qui est très répandue ou très familière, mais en fait c'est pas du tout le cas dans l'Ancien Testament et au temps de Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors effectivement, c'est pas une métaphore majeure, comme les théologiens appellent majeure, c'est des images qui sont reprises plusieurs fois et qui véhiculent vraiment des images importantes, enfin des aspects théologiques importants. L'idée du corps, hein, on est tous membres les uns des autres, Jésus est la tête, donc il y a des choses fondamentales. La vigne, on dirait que c'est un petit peu à part. Pourtant, la vigne était très présente, non seulement dans l'Ancien Testament, mais au temps de Jésus. Je vais vous donner quelques arguments pour étayer le passage qu'on va étudier en Jean 15. Déjà, Flavius Joseph. Ah, c'est pas lui. Il faudrait que tu me connectes. Voilà, super. Flavius Joseph. Vous connaissez Flavius Joseph, c'était un historien juif du 1er siècle. Il n'était pas chrétien, mais on apprend énormément de choses grâce à Flavius Joseph parce qu'il donne plein d'éléments géographiques et historiques sur le christianisme des débuts, quoi. Et donc, il nous rapporte que la façade du temple de Jérusalem, donc là on parle du second temple, celui qui a été embelli par Hérode, eh bien, il était décoré d'une gigantesque vigne d'or dont les grappes et les feuilles symbolisaient Israël comme la vigne de Dieu. Et vous voyez ces parties dorées ici. Alors attention, c'est une reproduction, le temple n'existe pas, donc c'est virtuel tout ça. Mais on imagine assez bien, tout ce que vous voyez, les dorures, sont des feuilles et ça représente la vigne. Vous allez voir une autre photo, et là c'est une autre source rabbinique. Donc il s'agit de la Mishnah, et donc elle confirme que des fidèles juifs offraient des pièces d'or en forme de grappes de raisin, et ensuite on les accrochait à cette vigne dorée. Donc vous voyez, ici tout le long, il y avait des dorures, donc c'est pas exactement la même photo, mais comme c'est de toute façon virtuel, et donc les gens venaient accrocher sur la vigne, venaient accrocher cette petite pièce en forme de vigne ou de raisin, de grappe de raisin. Et on a encore des tombes. Au temps de Jésus, il y avait des tombes. Alors, il n'y avait pas que les Juifs qui représentaient ça. Donc, ils sculptaient, gravaient sur les sépultures, donc l'image de la vigne. Ils n'étaient pas les seuls parce que les Romains aussi le faisaient. Donc, voilà, il n'y avait pas que les Juifs. Mais quand même, et en général, c'était identitaire. C'était pour qu'on puisse identifier les Juifs d'un premier coup d'œil. Ah tiens, ça, c'est une tombe juive. Et les Juifs espéraient que quand le Seigneur allait venir, il allait repérer qu'ils étaient Juifs et ils allaient les ressusciter de cette manière. Mais bon, c'est un argument, mais c'est pas le plus important. Et le dernier, le tout dernier, ce sont des pièces à l'effigie, donc des pièces de monnaie, qui étaient frappées avec l'image d'une ville. Donc c'était ça, ça a eu lieu pendant la révolte contre Rome. Et donc il y a des pièces de monnaie qu'on a récupérées, qu'on a retrouvées aujourd'hui. Et donc sur ces feuilles de vigne, sur ces pièces, on y gravait des feuilles de vigne. Enfin, c'était frappé, hein, c'était pas gravé, mais on accompagnait d'une inscription et c'était marqué Liberté de Sion. Je trouvais ça intéressant. Vous voyez, c'était une révolte et ça, c'est notre liberté. Et donc, on va frapper une monnaie expressive pour montrer qu'on est rebelle quelque part. Et donc, ces monnaies faisaient écho à la même symbolique nationale et spirituelle et renvoyait probablement aussi à la vigne dorée du temple. Alors je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, on utilise cette image. Est-ce que vous connaissez un texte ou est-ce que vous avez le souvenir d'un texte dans l'Ancien Testament qui parle de la vigne? Ça vous dit rien? Il y en a plus d'une dizaine, les amis. Donc, si vous me dites non, il va falloir relire votre Ancien Testament parce que c'est assez présent. Quasiment tous les grands prophètes en ont parlé. Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie. Mais les petits prophètes aussi. Je vous donne la liste ici. Psaume 80, donc un psaume en parle. Le psaume 80, explicite. Jérémie 2, 21, Jérémie 12, 10, Ézéchiel 15, Osée 10, Sophonie 7, Sophonie 8, Ésaïe 5, Ésaïe 27, Ésaïe 60, Ésaïe 61. Juste avec Ésaïe, j'ai pas donné les versets parce que ça serait trop long, mais vous voyez, on en parle abondamment. On va prendre un texte, parce qu'on va pas prendre tous ces textes-là, mais j'ai fait l'exercice, et en fait, ils disent à peu près tous la même chose, et c'est pas très positif quand les prophètes de l'Ancienne Alliance en parlent. Et vous allez le voir de quoi il s'agit. Quel est le message qu'on apprend ici? Ça ne fonctionne toujours pas ce matin, c'est terrible. Tu peux avancer, s'il te plaît. On va lire Ésaïe 5. Ok. Ésaïe 5 et les versets 1 à 7. Vous pouvez prendre vos Bibles si vous voulez, si c'est compliqué de lire de si loin. Mais c'est chapitre 5 du livre d'Ésaïe. Et on va lire les 7 premiers versets. Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Or donc, maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture et voici la forfaiture, la justice et voici le cri du vice. Si vous avez bien observé le texte, vous avez dû remarquer à qui Ésaïe fait référence lorsqu'il parle de la vigne. Vous avez repéré? À qui il fait référence lorsqu'il parle de la vigne? Au peuple d'Israël. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Il n'y a pas plus clair. Donc là, on a une métaphore, parabole, et donc ça met en évidence que la vigne, c'est le peuple de Dieu, le peuple de l'Ancienne Alliance. Alors attention, l'Église, c'est pas le peuple de l'Ancienne Alliance, mais ça va devenir, le peuple de Dieu va être l'Église à la Pentecôte. Quand Dieu va envoyer son esprit. Ça, c'est annoncé dans Ézéchiel, dans Jérémie, la nouvelle alliance, l'esprit qui va venir habiter de manière permanente dans le cœur des croyants. Donc l'Église est différente d'Israël, mais il y a quand même une ressemblance. Mais Jésus va reprendre cette image et va la compléter. Je vais dire même la sublimer. Et vous allez voir qu'il y a des petits ajouts et on se dit, ah ouais, effectivement, c'était pas dans le texte. J'ai relu quasiment, oui, j'ai lu tous les textes, tous ceux que vous avez vus ici. Et en fait, chaque fois qu'on fait référence à la vigne, c'est toujours pour rappeler à Israël qu'elle produit pas de fruits ou des mauvais fruits, des fruits infects. Hein, vous avez probablement déjà ramassé du raisin ou même vous-même mangé du raisin qui n'est pas mûr ou un raisin qui est acide ou un raisin qui est malade. Moi, j'ai eu l'occasion, avant, on avait une petite vigne et donc on avait beaucoup de raisins et comme je la taillais pas, eh bien, en général, on ne récoltait rien. On avait des tout petits raisins, ils étaient tout riquiqui et ils passaient tout l'été et ils ne mûrissaient jamais. Et au final, on mangeait rien. C'est une image que Jésus va utiliser pour parler à son église. Et vous allez voir que ça tape fort ce matin. Et donc, c'est pour ça que je voulais pas vous surprendre, mais je voulais vous poser la question. Lorsque un vigneron a tout fait pour sa vigne, qu'elle lui appartient, c'est ce qu'on voit dans ce texte, la vigne, elle appartient clairement au vigneron, c'est lui qui, depuis le départ, a travaillé la terre, l'a plantée, l'a taillée, l'a enrichie avec de l'engrais. Est-ce qu'il est normal qu'il attende quelque chose de sa vigne ? Michel, je sais que tu cultives un jardin, n'est-ce pas ? Est-ce que après avoir semé tes semences de courgettes, après avoir arrosé abondamment, après avoir mis de l'engrais, est-ce que tu t'attends à avoir des courgettes ? Ça paraît logique, n'est-ce pas ? Eh bien, Dieu fait exactement la même chose avec nous. Il prend soin de son église. Il prend soin de sa vigne. Et donc, qu'est-ce qu'il attend ? Des fruits. Il attend des fruits. Et on va regarder, finalement, est-ce que l'église est comme Israël ou est-ce qu'elle est plus fructueuse ? Et c'est là où Jésus va taper fort. Et je vous le dis ce matin, il y en a plusieurs qui vont trembler sur leur siège. Probablement même qu'il y en a qui vont douter qu'ils sont chrétiens. Je préfère vous le dire avant. Parce que le texte est très fort. Mais il faut passer par ces textes parce qu'on va parler de la véritable Église. C'est quoi l'Église de Jésus ? Celle que Jésus a rachetée. Celle pour laquelle il est mort. Jésus est mort, pas pour toi ou moi, il est mort pour nous. Il est mort pour l'Église, c'est sa bien-aimée, c'est son épouse, il la chérit, il l'aime tellement qu'il est mort pour elle. Alors qu'elle avait rien de beau, elle avait des rides, sa robe était tachée. Elle n'était pas si belle que ça en fait l'Église, mais il l'a aimée, il l'a choisie. Et ce matin, on va voir tous ces concepts-là que je viens de dire dans le texte. Vous allez voir, c'est assez frappant. Alors, on va faire deux vagues. Une première où on va décortiquer les versets 1 à 8. Et puis après, on prendra un bloc des versets 8 et on ira jusqu'au verset 17. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va lire ici les versets 1 à 8. Ça ne fonctionne toujours pas. Est-ce qu'on peut changer la télécommande ? Alors, voilà. Moi, je suis le cep. Moi, je suis le vrai cep. Là, c'est Jean 15. Si vous voulez, vous pouvez suivre avec vos Bibles. Moi, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. Émondé, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Est-ce que vous pouvez passer la slide d'après ? Verset 5. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Un texte puissant, un texte pas toujours simple, parce qu'il reprend souvent les mêmes idées qu'il va réenchérir. Mais j'ai quand même trouvé 4 points. 4 points pour 8 versets. Alors on va pas avoir une vue exhaustive de l'Église, hein, parce que si vous vous souvenez, j'enseigne depuis quand même quelques années 2 schémas. Avec l'identité de l'Église, et le CEP fait partie d'un élément de l'identité de l'Église. On a déjà cité d'autres, mais vous savez qu'il y en a 100 dans le Nouveau Testament. Il y a au moins 96 images qui font référence à l'Église, plus ou moins proches, d'accord ? Alors, on peut pas mémoriser toutes ces images. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de trier. Et puis, parfois, y a des images qui se recoupent. Donc, quand elles sont utilisées qu'une fois, en général, on les met de côté, ce qu'on appelle les métaphores mineures. Mais on va en prendre d'autres qui sont plus répétées ou, en tout cas, où Jésus ou les apôtres les ont davantage développées. Et c'est ce qu'il fait ici. Il y a quand même plusieurs versets. Et donc, c'est pas juste une phrase. Vous êtes le champ de Dieu, comme on verra en 1 Corinthiens 3, où il y a juste cette petite phrase. Là, on a vraiment un chapitre. Et donc, on va regarder de plus près ce que nous sommes en tant qu'Église, ou en tout cas, ce que nous devrions être. En fait, ce que nous devrions incarner. Et on va voir que, une vigne où l'Église est toujours imparfaite, et que notre incarnation, qu'on connaisse ce qu'on doit faire, bien qu'on ait le mauvais exemple à ne pas suivre dans l'Ancien Testament avec Israël, on voit qu'on a encore de la difficulté. Pourtant, on a des capacités surnaturelles, les amis. Des capacités que Jésus nous a données. Et c'est pour ça qu'il est en attente de nos fruits. Parce qu'il nous a mis plus que de l'engrais. Il nous a mis un moteur puissant, un moteur indestructible qui s'appelle le Saint-Esprit. Et quand je dis indestructible, il est éternel. C'est Jean qui dit qu'il sera éternellement avec vous. Jean 14, reprenez, il faudrait relire Jean 13, Jean 14 pour avoir vraiment le détail du contexte. Mais on va y revenir. Avant d'aller plus loin dans le texte, on voit dans le premier verset que Jésus va identifier les acteurs, d'accord ? Si vous repérez bien, il dit « Moi, je suis le vrai cep ». Dans cette métaphore, « Je suis le vrai cep ». Jésus, il s'attribue ce rôle-là alors qu'il n'existait pas dans l'Ancien Testament. On voyait le vigneron, on voyait la vigne, mais on ne voyait pas le cep. Et vous avez vu, ici, Jésus ajoute, il s'insère au milieu de la vigne. Il vient habiter parmi nous. Il vient ici être au centre. En fait, vous voyez, il devient l'intermédiaire. Et vous avez vu qu'il s'attribue le rôle du vrai cep. Probablement par contraste avec Israël, qu'il considérait comme une vigne très imparfaite, religieuse, voire superficielle, ou même une fausse vigne, disons-le. Si elle est retranchée, la vigne, mes amis, c'est qu'elle ne fait pas partie du peuple élu. Le reste, oui, mais pas tout le monde. Et bien souvent, les Juifs se trompaient. Ils pensaient, parce qu'ils étaient circoncis, qu'ils appartenaient au peuple de l'Alliance. Que nenni ! Il fallait qu'ils soient circoncis du cœur. Et Jésus va reprendre tous ces éléments-là et va nous les servir sur un beau plateau. Et on va avoir une richesse incroyable dans le vocabulaire biblique pour définir ce qu'est un disciple. Ce matin, on a une image et vous allez voir, je vais essayer de l'enchérir un petit peu pour qu'on saisisse bien de quoi parle Jésus. En tout cas, le rôle du cep était absent dans la métaphore de la vigne dans l'Ancienne Alliance et c'est la grande différence avec le Nouveau Testament. Jésus est maintenant au milieu de sa vigne. Il s'insère au milieu de sa vigne. Et vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, le rôle de Jésus, il n'était pas si déterminant. On voit la vigne, on voit le Père, mais Là, maintenant, Jésus est là. Jésus est au milieu de son peuple. Est-ce que vous voyez Jésus, là, maintenant? Vous ne le voyez pas? Parce que juste au chapitre 14 avant, et au chapitre 13, il a dit qu'il allait s'en aller. Et les disciples étaient tristes. Et vous êtes probablement aussi tristes que moi. Moi, j'aimerais que Jésus soit là. Mais il nous a rassurés. Il a dit, je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit. Et il sera éternellement avec vous. Alors, vous n'allez pas tout recevoir d'un coup. Je vais vous donner un petit acompte. Un acompte, 5-10%. Il nous donne un acompte pour le moment. Quand on sera au ciel, on va avoir la plénitude. Donc aujourd'hui, on goûte un petit peu au ciel. Mais je dis bien un petit peu. Et donc l'Église, lorsque vous venez, je ne sais pas si c'est la première fois que vous êtes dans une Église, vous allez goûter un peu au ciel. Tout à l'heure, pendant les cantiques, je voyais les gens et j'entendais ça chanter fort. Et vous vous croyez un peu au ciel, n'est-ce pas? Et puis au moment où on vous a dit « rasseyez-vous », ah mince, là je suis plus au ciel, je dois me rasseoir, vous voyez. Il y a des éléments qui nous ramènent ici-bas. Mais on goûte quelque part avec l'Église un petit peu au ciel, parce que le Saint-Esprit est en nous. C'est plus Jésus, mais il a envoyé ce Consolateur à la Pentecôte. Et à partir de ce moment-là, l'Église est née. Elle est née. Et aujourd'hui, nous faisons partie de la même Église que celle qui avait au temps des apôtres. C'est la même. C'est le même Saint-Esprit. Et il a la même durée de vie. Il n'y a pas de date de péremption. D'ailleurs, à ce sujet, ça m'a fait rire. On a acheté du sel de l'Himalaya. Et dessus, c'est marqué « sel multimillénaire ». C'est-à-dire que le sel, il a 5000 ans. Peut-être même 10 000. Ok, je me suis dit, c'est génial. Alors, je regarde le truc, je retourne le paquet et c'est marqué « date de validité mai 2029 ». Heureusement que le Saint-Esprit n'a pas de date de validité, les amis. Il est éternel et il est avec nous. C'est pas génial, ça? Alors, on n'a pas tout. On souffre encore, on pêche encore, mais on n'est pas tout seul. Et on va comprendre comment ça fonctionne. Deuxième rôle, et là c'est aussi très clair, c'est le Père. Mon Père est le vigneron. Je veux dire, Jésus peut pas être plus clair. Moi je suis le cep, dans l'histoire c'est moi le cep, c'est mon Père qui est le vigneron. Là ça change pas, c'est lui qui entretient sa vigne, c'est lui qui l'a plantée, et c'est lui qui en récolte le fruit. Et ça c'est normal, d'accord? Et puis, on a les acteurs. Moi je suis le cep, vous les sarments. Et Jésus va même un peu plus loin, c'est qu'il dit il y a deux types de sarments. Et là, il faut aller dans le verset 2. Ça ne marche qu'une fois sur deux. Regardez ce qu'il dit. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Ok ? Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et là, on distingue deux sarments, c'est clair et net. Des sarments qui portent du fruit, qui sont fructueux, et des sarments qui n'en portent pas. Ou alors qui portent un fruit infect. D'accord? Donc il y a des petites bribes, il y a des grappes de raisin parfois, mais honnêtement, c'est acide. T'as l'impression que c'est beau, il y a beaucoup de feuilles, peut-être des fois les raisins sont gros, mais quand tu y goûtes, c'est très acide. Et là, t'as pas trop envie de manger la grappe. Eh bien, ici, on va regarder de plus près. Maintenant qu'on connaît les personnages et les rôles, eh bien, on va voir que la métaphore de la vigne révèle... Changer de télécommande. C'est dingue, comment ça se fait? On se met par terre, couché, ça marche. J'étais sur le siège, ça marchait, ça ne marche plus. Bon, je te laisse piloter, je te ferai un petit signe, ça m'évitera d'appuyer sur la télécommande. Alors, la métaphore de la vigne révèle quatre caractéristiques d'un vrai disciple de Christ. Et là, vous pouvez noter. Ok, première caractéristique, c'est qu'un vrai disciple est émondé par la parole. Alors, on va regarder ce que ça veut dire, parce que je doute que tout le monde sache ce que veut dire le mot émondé. Verset 2 dit, « Tout sarment qui est en moi » et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, ou émondés, on pourrait dire, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Est-ce que vous vous souvenez du contexte dans lequel Jésus a dit ces paroles-là. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? En Jean 13, par exemple. Jésus a fait son dernier discours. Pas la prière sacerdotale qui est en Jean 17, mais il a pris les disciples à part, il a fêté la Pâque. D'accord? On va y revenir pour la Sainte Cène, mais il a fêté la Pâque. Et là, il a enseigné quelque chose de fort. Le message principal, c'est le lavement des pieds. Vous vous souvenez? Lavage des pieds, lavement des pieds, les deux fonctionnent. Mais en tout cas, il a lavé les pieds de ses disciples à ce moment-là. La plupart des gens interprètent ce passage en disant « Oh, quel geste d'humilité !» C'est absolument pas ça qu'il voulait enseigner en premier. Ça, c'est un enseignement, mais secondaire. La première chose qu'il a voulu enseigner, c'est le pardon des péchés quotidiens. Parce que lorsque Pierre s'adresse à Jésus, qui prend la bassine, qui vient vers lui, qui chope son pied, Pierre lui dit « Arrête !» Pas seulement les pieds, mais baigne-moi de partout. Les pieds, la tête, tout. La totale, quoi. La douche, le bain. Et Jésus le regarde et lui dit « T'as rien compris, Pierre. Tu comprendras ces choses plus tard. Tu es déjà baigné, tu es déjà pur. » Le texte dit « Tu es déjà pur, purifié, émondé. » Et il rajoute « Mais non pas tous. » Et Jean dit « Parce qu'il connaissait celui qui allait le livrer. » Et donc là, on apprend qu'il y a un personnage dans l'histoire qui va trahir. Et on assiste juste après le lavement des pieds, donc ils sont encore en train de manger la scène. Judas est parmi les autres, Jean est couché à côté de Jésus, donc on mangeait couché, hein, sur le coude, à la romaine. Et puis Jean a la tête sur la poitrine de Jésus, très intime Jean, il entend tout, il sait tout. Jean est le disciple, si vous lisez les évangiles, je vous le dis, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, mais en fait, Jean ne rapporte que ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu. C'est hyper intéressant de regarder ça comme ça. Jean a vécu ce moment-là et il le raconte. Et Jésus annonce sa trahison. Et vous savez quoi? Tout le monde se regarde et dit « Mais qui ça peut bien être? Qui va trahir le maître ?» Et personne n'a regardé Judas. « Ah, ça doit être lui, c'est lui qui tient la caisse. » Il a dû taper dedans. Que dalle, rien. Ils n'ont absolument pas soupçonné Judas parce que Judas faisait tout comme les autres. Judas, il a passé 3 ans à côté de Jésus. Judas, il a vu les miracles de Jésus. Judas, il a même fait des miracles parce que Jésus l'a envoyé faire des miracles. Il a reçu un don. Judas, il a prêché l'évangile du royaume parce qu'il est parti deux à deux comme les autres disciples. Judas, il a fait tout ce qu'un disciple, il participait à la réunion de prière, il lisait la Torah dans la synagogue, il participait à toutes les activités qu'on pourrait faire en tant que croyant et en tant que membre d'église. Finalement, Judas aurait très bien pu être un membre de l'EIG. Et pas un simple membre, un membre fidèle, un membre qui donne sa dîme, un membre qui participe aux réunions, qui vient au week-end d'église, qui va au groupe de maison, et même lui, il y a plus de zèle, il fait aussi le groupe de croissance. Ça pourrait très bien être le profil d'un de nos membres. Mais, il y a une différence. Et c'est là où on voit la différence. Parce que vous avez remarqué que ce n'est pas quelqu'un de lointain. Hein. Il dit tout simplement qui est en moi, qui est proche de moi, qui me côtoie de près. Et Jésus a vécu vraiment 3 ans aux côtés de Jésus. Ils ont dormi ensemble dans la nature. Ils étaient avec Marthe et Marie. Ils ont mangé, ils ont tout fait ensemble. Donc il était vraiment très proche. Et c'est ce qu'il dit, tout simplement, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Donc on n'est pas en train de parler des chrétiens qui viennent sporadiquement à l'église ou qui ne font que côtoyer l'église de loin en regardant les messages sur YouTube, par exemple. Si vous le faites, c'est super, mais c'est pas suffisant, les amis. Et là, je m'adresse à ceux qui nous regardent. Rejoignez une communauté parce que c'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça que Dieu va vous émonder. Et c'est ça la différence entre un vrai disciple et un faux disciple. C'est qu'il y en a un qui est émondé par Dieu, alors que l'autre, il est coupé, jeté et on le brûle. Celui qui est mondé, vous savez probablement pas ce que c'est. C'est quoi l'émondage? Je sais qu'il y en a qui font ça. C'est notre amie Irène. Elle a fait ça pendant des années. Tailler la vigne. Enlever les gourmands. Enlever les drageons qui poussent soit sous la terre, soit sur, et qui viennent pomper la sève, en fait. Et puis, il y a des moments où la vigne, ça pousse à une vitesse, une vigne. Moi, j'en avais une. En fait, c'est incroyable. On regarde en un mois, la vigne, elle peut prendre 3 mètres de long. C'est énorme. Ça pousse hyper vite. Et là, les branches, vous pouvez les casser assez facilement. Par contre, quand elles commencent à arriver vers l'été, là, les sarments vont être beaucoup plus durs. Et qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? Prendre un sécateur. Donc l'émondage, finalement, on n'est pas forcément obligé de prendre un sécateur. On peut le prendre, mais on n'est pas en train de tuer la vigne. On est en train d'en prendre soin. Si on laisse trop de raisins sur une grappe, et moi j'ai fait l'expérience, et j'ai travaillé aussi dans une vigne à un moment donné, j'ai vu comment on faisait pour tailler la vigne. En fait, on laisse pas toutes les grappes. Pourquoi? Parce que déjà, il y a du vent. Et quand il y a du vent, si vous laissez plein de feuilles, le vent va se prendre dans les feuilles et il va casser la branche, parce qu'elle est fragile au début. Donc qu'est-ce qu'on fait? On coupe ces morceaux-là. Ça s'appelle l'émondage. Mais il y a aussi des petits gourmands qui partent. Il y a des drageons. Il y a toutes sortes de choses qui viennent pomper la sève et qui vont empêcher la maturité du raisin. Ce qui s'est passé chez moi quand je taillais pas la vigne. Hein, un jour, il y a un viticulteur qui était dans notre église, qui lui était tailleur de vigne, alors c'était son métier, et il m'a dit « Ah mais c'est pas étonnant que t'aies pas de raisin. Tu l'as taillé ta vigne ?» Je lui dis « Bah non, pourquoi? C'est bio. » Mais mes amis, si vous voulez boire du vin bio, allez voir un viticulteur bio, vous allez voir qu'il attaille sa vigne. Et probablement même plus minutieusement que ceux qui ne sont pas en agriculture bio. Il est obligé, s'il veut que son vin produise, parce que lui, il va pas mettre autant d'engrais, en tout cas pas d'engrais chimiques, donc il aura moins de rendement. Donc, il doit faire encore plus d'efforts sur le taillage, sur l'émondage. Et voyez, ça correspond à quoi? Parce que là, on est en train de parler de théorie. Ça correspond à quoi, l'émondage? Pour le croyant. Vous avez une petite idée, là, j'imagine. C'est ce que la Bible appelle le processus de sanctification. Il ne s'arrêtera jamais, j'en suis désolé. C'est pas qu'au début de la vie chrétienne. Au début de la vie chrétienne, on fait des grosses bêtises. Et effectivement, là, on a l'impression que Dieu, il prend une masse et pas, il casse le truc ou une hache pour couper une partie d'une branche qui est bien costaud. Vous voyez? Des bonnes addictions qui sont installées depuis des années. Parfois, Dieu est obligé de faire ça. Mais une fois qu'il a taillé ces gros morceaux, eh bien, après, il reste la vigne. Et cette vigne, elle a des saisons. Et chaque fois, il y a toujours des choses qui poussent. Il y a toujours des choses qui viennent pomper notre sève. Et c'est ce que la Bible appelle la sanctification. La sanctification, honnêtement, c'est pas ma partie préférée. Parce que quand Dieu coupe des fois des parties de notre vie, où il nous demande en tout cas d'arrêter certaines choses, eh bien ça fait mal. Ça fait mal. Ça demande de la mort à soi. Ça demande de mourir à notre orgueil. Ça demande de mourir à nos petites ambitions. Eh oui. Et c'est comme ça que fonctionne Dieu. Il nous taille, mais c'est pas pour rien, c'est pour notre bien, pour qu'on ressemble davantage à Jésus. Est-ce que tu peux mettre le verset d'Hébreux 12 ? Le Père nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il taille les morceaux qui nous pompent. Il n'est pas en train de couper toute la vigne ici. Il fait exprès, et c'est ce que la Bible appelle le châtiment, il nous châtie parce qu'il nous aime. Pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il veut qu'on lui ressemble. Il veut que sa vigne porte du fruit. Il veut qu'on soit comme Jésus. Et où est-ce qu'il est, Jésus? Au milieu de la vigne. Il nous donne le ton. Il nous donne le modèle. Jésus est la vigne parfaite. On a le modèle parfait en Christ. Et c'est ce que Dieu veut reproduire en nous. Il nous a d'ailleurs prédestinés à cela. Romains 8, 29, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Et donc, la sanctification, c'est ce taillage. Et quel est l'outil principal? Là, j'ai parlé du sécateur. Eh bien, le sécateur, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Et là, tu peux mettre le verset d'après. Parce que la Bible, elle coupe, elle tranche. Et mémorisez ce passage, car la parole de Dieu est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Donc vous voyez, quand il y a des sentiments qui ne sont pas justes, quand on a des mauvaises motivations, si vous lisez la Bible régulièrement, si vous écoutez la parole de Dieu, peut-être vous avez de la difficulté à lire, vous pouvez l'écouter aujourd'hui. Vous pouvez écouter des prédications, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez lire des livres. En fait, il y a tellement d'outils aujourd'hui que Dieu peut utiliser pour nous émonder. Eh bien, il va le faire au travers de sa parole. Il va couper. Mais si le couteau est vraiment bien taillé, les amis, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. C'est simplement nécessaire. Et honnêtement, je ne connais pas un chrétien qui n'a pas besoin de faire le ménage dans sa vie. Comment ça marche? Comment ça marche? En fait, je vais vous donner ici un cas très concret. Je viens de perdre mon texte. Voilà. Un jour, j'ai eu un entretien un peu décourageant avec une personne. Alors la personne, elle m'a pas du tout accablé ni accusé personnellement, mais elle m'a ouvert son cœur et elle m'a fait part de ses déceptions vis-à-vis de l'Église. C'est jamais très agréable ces moments-là, parce que quand on est pasteur, on se sent un peu responsable de ce qui s'y passe dans son assemblée, n'est-ce pas? Hein, on est responsable de la bergerie, donc forcément, s'il y a des dysfonctionnements, je me sens aussi visé. Bref, la plupart des déceptions étaient justifiées. Mais il y a des fois des choses sur lesquelles on peut pas agir. Moi, je suis pas Dieu. Je constate parfois des dysfonctionnements. Et j'aimerais que ça change. Et je prie pour que ça change. Mais des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc, une fois que cette personne m'a livré ses plaintes, tout ça, on s'est quitté. Et j'avais un petit arrière-goût, une petite déception. On va dire que j'étais un peu découragé. Et vous savez quoi? Le lendemain, cette personne m'appelle. Je vois le numéro qui s'affiche sur mon téléphone, je fais... pas encore. Et là, j'ai hésité à répondre. Et là, le Saint-Esprit m'a repris. Vous voyez, le Saint-Esprit, il utilise ça. C'est ça, la sanctification. Il y a quelque chose de désagréable à faire. Eh bien, tu prends sur toi. J'ai dit, ok, t'es pasteur, assume. J'ai répondu. Et là, à ma grande surprise, j'avais affaire à un vrai disciple en face de moi. La personne a réalisé qu'elle n'avait dit que des choses négatives dans l'entretien. Des choses justes. Mais des choses sur lesquelles j'avais de la difficulté à agir. Et en fait, elle m'a dit, écoute, j'ai été déséquilibré. Je pense, c'est pas une déséquilibrée, mais j'ai pas été juste. J'ai pas relevé tout ce qui va bien et tout ce qui est génial. Et là, j'ai retrouvé ma joie. Alors, j'avais pas perdu toute ma joie, mais quand même. Et là, je me suis dit, waouh. Mais vous savez quoi? C'est ça, être un disciple de Jésus-Christ. Être un disciple qui se laisse émonder par la parole. Parce que cette personne m'a dit, tu sais, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dû relire la Bible et j'étais pas tranquille. Et à un moment donné, j'ai été convaincu qu'il fallait que je t'appelle. C'est ça, être émondé par la parole. C'est la démonstration du Saint-Esprit dans la vie de la personne. Est-ce que ça veut dire que cette personne était parfaite? Absolument pas. La preuve, c'est qu'elle a pris conscience, mais c'était un vrai disciple. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai disciple. C'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. C'est quelqu'un qui agit vite, c'est quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il entend quelque chose ou qui sent qu'il a dérangé, il va dans l'Écriture. Il va pas chercher dans ses émotions, ses sentiments, ou aller manger un gros gâteau pour se faire du bien. Hein? Il y en a qui ont ce réflexe. Non, on plonge dans l'Écriture. Ça va pas? Ok, j'ai besoin de la parole. Parce que je sais que là, je vais être réconforté. Ça va peut-être faire mal. Et mes amis, venir demander pardon, ça demande de l'humilité. Et ça, un non-croyant n'est pas capable de le faire. À ce point-là. Parce que c'est une broutille, hein. On est d'accord, hein. Ce serait quelque chose de grave. À la limite, un non-croyant serait capable. Mais pour des broutilles, on laisse couler. Eh bien, un croyant qui est authentique, il ne laisse pas couler. Il va venir et il va régler son problème. Et c'est comme ça qu'on devrait fonctionner dans l'Église. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais disciples, à la rapidité à laquelle ils se repentent. Ils demandent pardon et ils changent. Et moi, j'ai dit, mais t'as pas besoin de pardon, tu m'as rien fait. Vous voyez, moi, j'étais là et je me disais, mais c'est disproportionné. Mais non, pour moi, oui, pas pour elle. Et ça, ça change tout. Allez, deuxième point, et là, on va aller plus vite maintenant. Le premier était le plus long. Donc, un vrai disciple, il est attaché durablement à Jésus. Et c'est le verset 5, on peut le lire ici. « Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Vous voyez ici, on voit le mot « demeurer ». Hein, c'est pas le fait d'être demeuré, mais c'est de demeurer. Hein, c'est un mot qui signifie être uni de manière permanente, être attaché durablement à quelqu'un ou à quelque chose. Demeurer, c'est votre maison. Vous y demeurez. On dit d'ailleurs c'est votre demeure, parce que c'est là où vous êtes le plus souvent. Vous n'êtes pas un SDF, vous y allez et vous êtes là régulièrement. Et c'est là votre lieu de vie en fait. Et ce mot-là, demeurer, il y est 11 fois dans le chapitre 15. C'est vraiment le thème central, le lien qui nous unit au CEP. On demeure uni à Jésus. Et en fait, si on regarde bien ce qu'il dit là, au verset 5, si on n'est pas uni, qu'est-ce qu'on peut faire de spirituellement bon? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de spirituellement bon, qui ont une valeur éternelle. Le texte dit clairement non. Tu peux faire plein de choses, mais elles ne vont pas être durables. Elles vont être là pour un temps. Et voyez, il compare encore les deux. Et il trace ici une ligne claire. Il y a ceux qui demeurent en Christ, donc en lui, sur le cep, qui demeurent attachés au cep, ceux-là portent du fruit. Et il y a ceux qui demeurent pour un temps et qui, à un moment donné, lâchent. Et puis finalement, meurent. Pensez à votre téléphone portable. Si on enlève la carte SIM, à quoi il vous sert votre téléphone? Il ne vous sert à rien, en fait. C'est un objet inerte. Et vous pouvez avoir le plus beau des smartphones avec la connexion 5G, même 6G aujourd'hui. Vous pouvez avoir toutes les applications les plus grandes. Vous pouvez avoir le meilleur des téléphones, le plus performant des téléphones. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, votre téléphone, il ne sert à rien. Il est bon à être jeté au feu. Voyez, je fais le parallèle ici avec les sarments. Si on n'est pas connecté à Jésus, en fait, ça sert à rien. T'as beau être joli, faire plein de bonnes choses, et il y a des gens qui font beaucoup de choses, qui brassent du vent, mais en fait, leur fruit ne demeurera pas. Et un jour ou l'autre, ils vont abandonner le Seigneur. Alors, à votre avis, à qui Jésus peut-il faire référence ici? C'est pas très compliqué, hein? De quoi il vient juste de parler au chapitre 13? De la trahison de Judas. Judas, et je l'ai déjà dit, il a suivi Jésus pendant 3 ans. Mais un jour, il s'est arrêté. Ça s'est très mal terminé d'ailleurs, hein? Il s'est arrêté. En fait, Judas n'avait pas enraciné la semence. Ses mauvaises motivations étaient toujours là, comme nous autres d'ailleurs, sauf que lui, elles étaient beaucoup plus présentes. Elles étaient là, il les camouflait. Et au moment où il y a une opportunité, ou une opportunité qui est partie, c'est son cas à mon avis, eh bien, il a changé. Probablement que Judas s'imaginait que Jésus, en tant que Messie, allait instaurer le royaume d'Israël, qu'il allait botter le train des Romains et qu'il allait instaurer son règne maintenant sur Jérusalem. Sauf qu'au chapitre 13, il dit quoi? Je vais mourir, les amis. Préparez-vous. Je vais vous envoyer un consolateur parce que je sais que vous êtes tristes. Vous comprenez pas pour le moment, mais vous allez comprendre. Vous êtes tristes.
Et là, Judas fait volte-face. Lui qui ambitionnait probablement le poste de ministre des Finances dans le nouveau gouvernement de Jésus, eh bien, tout s'effondre. Tout s'effondre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne sa veste. Comme il voit que ça va rien lui rapporter d'être avec Jésus, au contraire, des embrouilles. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne sa veste et il va aller trahir Jésus en le vendant pour 30 pièces d'argent, les amis. Une somme misérable, en fait. Gagne petit, Judas. Gagne petit. Mais c'est ce qui se passe. Et vous voyez le faux disciple? Le faux disciple, il regarde les opportunités et à un moment donné, il change. Ou bien, il suit Jésus pendant un temps et puis, quand il y a une adversité qui arrive, une épreuve, une maladie, il regarde Dieu et dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ça ?» Ça, c'est le réflexe de tous les humains, pas d'un enfant de Dieu. Alors peut-être que vous avez eu ce réflexe à un moment donné, mais vous devez faire comme les psalmistes, vous repentir de ça. Il y en a qui voulaient se venger, arrache-leur les poils de la barbe. Lisez, il y en a un paquet de psaumes de comment on appelle ça? Pas de lamentation, de psaumes d'imprécation. Et bien à la fin de ces psaumes, ils se repentent et ils changent d'attitude, voyez. Eh bien Judas, lui, à aucun moment, vous ne le voyez se repentir. Judas, il regrette amèrement ce qu'il a fait. Il pleure sur son péché. Il est triste. Il est déçu de lui-même. Mais à aucun moment, il ne fait comme le brigand qui est aux côtés de Jésus sur la croix, qui lui reconnaît ses fautes et demande pardon. Il aurait pu le faire, Judas. Il avait l'opportunité d'aller au pied de la croix et demander pardon à Jésus. Après l'avoir trahi, il avait encore cette possibilité. Est-ce qu'il l'a fait? Contrairement à Pierre, qui lui était déjà pur, qui l'a trahi, mais lui qui est revenu voir son maître. Vous voyez la différence entre un vrai et un faux disciple? C'est qu'il y en a qui vont pleurer sur leur péché, mais qui changent pas. Alors que Pierre va changer, et d'ailleurs, ça deviendra le pilier de l'Église. C'est le premier qui va prêcher, il va y avoir 3000 convertis. C'est hallucinant le changement, mais ça c'est quelqu'un qui était déjà pur, comme le disait Jésus. Jésus voyait au travers du cœur, son rayon X voyait exactement le cœur de Pierre. Oui, tu vas faire des boulettes. Oui, t'es imparfait, t'es encore un sarment qui a besoin d'être taillé, mais t'es un vrai sarment. Contrairement à Judas, qui lui n'avait pas besoin d'être émondé, mais d'être coupé. Et qu'est-ce que Jésus dit de ce sarment-là? Vous l'avez lu comme moi, c'est sous vos yeux. Qu'est-ce qui se passe de ces faux disciples? On les coupe, on les retranche. Israël, ils retranchaient, on les abandonne, on les laisse sécher et ils brûlent. C'est une image de l'enfer, les amis. C'est très clair. Judas est appelé le fils de perdition. C'est qu'il est perdu pour l'éternité. Judas a eu jusqu'à sa mort, jusqu'à son suicide, l'opportunité de se repentir, et il ne l'a pas fait. Vous voyez la différence entre un vrai disciple et un faux disciple? Troisième caractéristique d'un vrai disciple, et là on va abréger, un vrai disciple, chérit la parole de Jésus. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous devez aimer la parole de Dieu, ou en tout cas, essayez de la chérir, de faire comme cette femme. La parole, vous la serrez contre votre cœur. Alors, c'est une image aussi, parce que les versets, ils vont pas se graver à l'intérieur de votre cœur. Il va falloir l'ouvrir et la lire à un moment donné. Ok? Mais là, je sais qu'il y a nos amis, je vais pas citer qui, mais qui prennent ce texte-là comme une promesse extraordinaire. Et j'espère que vous le prenez aussi comme une promesse extraordinaire. Vous avez vu la promesse? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que c'est une promesse pour gagner à l'euro-million? Il y en a qui le croient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pris que la fin du verset. C'est quoi les deux conditions pour que Dieu réponde vraiment à ce qu'on a demandé? Vous avez vu? La première, si on demeure attaché à Jésus. Ok, autrement dit, si on est converti. Ici, il parle des saints, des gens qui sont émondés, pas les parfaits, mais les gens qui sont émondés, qui sont purs déjà, comme l'apôtre Pierre, pas comme Judas. Et deuxième condition, ceux qui demeurent ceux dont la parole demeure en eux. D'accord? Donc c'est des gens qui sont abreuvés de l'écriture. Pourquoi il dit ça? Parce que quand on est abreuvé de l'écriture, si la parole habite en nous, les amis, on n'est plus égoïste. On ne demande plus les choses pour nous-mêmes. Et c'est ce que dit Jacques. Vous demandez, mais vous n'obtenez rien parce que vous demandez que pour votre pomme. Vous vous regardez le nombril. C'est ça le problème. Quand tu es dans le Christ, quand tu es dans l'écriture, tu ne peux demander que des bonnes choses pour les autres. Vous savez quoi? Si mon fils demain me dit « Papa, je voudrais une nouvelle tondeuse pour tondre toutes les pelouses du quartier. » Vous savez quoi? Je vais au magasin immédiatement avec lui, on achète la tondeuse. Vas-y mon fils. Parce que c'est pas pour lui. Il veut faire du bien au quartier, il veut être un bon témoignage. Alors je vais investir et je vais répondre à ce qu'il me demande. Vous voyez? Par contre, s'il me demande une mitraillette pour aller tuer son professeur qui lui a mis une mauvaise note, je pense pas que je vais répondre. Et ça sera normal. Donc vous voyez les conditions ici, c'est qu'on chérisse la parole de Dieu, qu'on la fasse nôtre, qu'on dise « Ok Seigneur, je comprends pas tout, mais je veux au moins appliquer ce que je comprends. » Et Seigneur, tu peux m'aider à mieux comprendre. Comment? En allant dans les groupes de maison, en la lisant régulièrement, dans les groupes de croissance, en participant, en étant confronté aux autres, en échangeant, en discutant. Et là, ça va frotter et des fois, on ne sera pas d'accord avec les autres. C'est pas grave. Comment tu penses que Dieu va t'émonder? Il n'y a que comme ça que ça va se passer. Si tu es tout seul à interpréter ta Bible dans ton petit coin, je peux te dire que tu seras toujours d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Tout le temps. Moi, je suis toujours d'accord avec moi-même. Hein. Quand je lis la Bible, je la lis, je fais « Oh, je suis pas si mal. Hein, » vous trouvez peut-être bien quand vous la lisez. Quand tu vas te comparer à d'autres, oh là là, oh là là. Vous savez, j'ai mémorisé cette semaine Proverbe 30, versets 8 à 9. « Éloigne de moi la vanité. » Je ne sais pas si je vais y arriver, hein, parce qu'en public, c'est toujours impressionnant. Mais... « Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. De peur qu'étant rassasié, je te renie. Et je dise, mais qui est l'Éternel? Oh! De peur qu'étant pauvre, je commette un vol et que je n'honore pas le nom de mon Dieu. J'y suis presque arrivé. J'avais besoin de cette parole-là, les amis. Comment, à votre avis, elle m'est venue? J'ai écouté une prédication de Clément Bourrel, d'ailleurs, tiens. Sur la gestion de l'argent. Eh bien, le Saint-Esprit, pam! Il m'a mis une droite, là, les amis. J'ai dit, oh! Arrête de toujours regarder ce que les autres ont. Arrête de te comparer aux plus riches. Compare-toi aux plus pauvres et tu verras que tu es très riche. En fait, c'est ça qu'on a besoin. De l'écriture, les amis. De chérir cette parole. C'est pour ça que je veux la mémoriser. Ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Ok? Je ne sais pas si vous pouvez faire vôtre cette parole, mais ça vient de la Bible. Si vous n'êtes peut-être pas prêt, hein, moi j'ai attendu 30 ans pour la mémoriser. J'en ai besoin maintenant. Allez, dernier point. Un vrai disciple porte beaucoup de fruits. Et là, je vais aller hyper vite. Mais il faudrait relire tout le verset 8 jusqu'au à la fin du chapitre. Et là, je suis obligé de passer, je suis désolé. Mais il va donner plein d'éléments de porter du fruit. Le premier qui vient, les amis, et là, il parle des commandements. Il dit, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Ok, donc on sait qu'on doit porter du fruit, mais de quoi il parle? « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Ça, c'est un des premiers fruits. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Donc, vous voyez, si vous remontez l'équation là. Si tu veux porter du fruit, tu dois demeurer dans les commandements. Tu dois les garder, tu dois les appliquer. La parole de Dieu doit devenir applicable parce que le Saint-Esprit est en toi. Et regardez, il poursuit, dans mon amour, Reviens juste en arrière. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. C'est pas un rabat-joie, Dieu. Il nous demande d'appliquer sa parole, d'obéir pour nous donner sa joie. Parce qu'il sait qu'en appliquant sa parole, autrement dit, au lieu de se regarder le nombril, on va donner aux autres. Et quand on donne aux autres, qu'est-ce qu'il dit? Il y a plus de bonheur. Acte 20, 35. Ça aussi, tu peux le mémoriser. L'apôtre Paul cite une parole de Jésus qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Les amis, ça vient d'Écriture. Tu veux être joyeux? Donne. Donne de ton temps. Donne de ton énergie. Donne de ton amour autour de toi. Et bien sûr, donne de tes biens. Et ça fait partie des fruits. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous. Est-ce que tu peux passer la slide? Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Et je m'arrête ici. Je donne juste une petite illustration. On se dit, mais comment ça marche? On devient ami de Dieu et c'est pour ça qu'il nous dit que on n'est plus des serviteurs. Imaginez un ministre, vous soyez le chauffeur d'un ministre. Il vous dit, amenez-moi à la gare Cornavin. Si vous êtes un chauffeur, donc un doulos, un serviteur, ici c'est le terme esclave, vous n'avez rien à dire, vous faites votre job. Par contre, si vous êtes un ami du ministre et qui vous dit « Écoute, Franck, est-ce que tu pourrais m'amener à la gare Cornavin ?» En fait, il faut absolument que je m'y rende parce que vu l'heure et vu la distance, je dois aller à Lausanne et avec les bouchons, je n'ai aucune chance d'y aller. Est-ce que tu pourrais m'amener à la gare Cornavin ? Vous voyez la différence ? On a tous les deux joué le rôle du chauffeur. Mais il y en a un, il a fait son job sans discuter. L'autre, il a eu droit à des explications. Et Jésus venait d'expliquer le déroulement du plan de rédemption qui allait se passer. Et donc on est là, et en fait il dit, mais ça je le dis pas à n'importe qui. Je le dis à ceux que je connais bien, à ceux que j'aime, à ceux que j'ai choisis. Et oui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. C'est ce qu'il dit aussi dans le texte, juste après. Et donc vous voyez, ici, on a affaire vraiment à une amitié avec Dieu. Alors attention, tu ne deviens pas le pote de Dieu. Hein ? C'est pas réciproque. Hein ? C'est pas le serviteur qui va dire au maître ce qu'il doit faire. Écoute, j'ai envie de t'emmener à l'aéroport et non pas à la gare Cornavin. Ben non, ça marche pas ça. Tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. Parce que toi, tu commandes à ton ami. Ok ? On n'inverse pas les rôles avec Dieu. Il faut que ce soit très clair, ça. Allez, je mets juste un petit listing ici et je vous invite à aller relire à la maison. À quoi correspond ce fruit ? Eh bien, la Bible, elle est mais multiple. Est-ce que tu peux mettre la slide juste après ? Voilà. Le fruit, bien évidemment, c'est notre obéissance imparfaite. On est d'accord. Hein ? On va toujours être élagué. Donc, notre obéissance ne sera jamais parfaite, mais elle est informée. Notre caractère, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, tout ça c'est le fruit du caractère du chrétien. C'est nos lèvres, la louange, l'adoration, la reconnaissance, c'est 13-15. C'est aussi nos biens matériels, le fait de donner, de partager nos biens, ça fait partie du fruit. À chaque fois il y a le mot fruit dans ces versets-là. C'est aussi nos mains, nos bonnes œuvres, notre service, notre générosité. Tite 3, 13 et le verset 14, il y a encore le mot fruit. Vous porterez des fruits en faisant du bien aux frères. Notre témoignage est là, effectivement, un fruit. Un des fruits qu'on peut porter, c'est les gens qui viennent à Jésus. Mes amis, c'est le plus beau fruit que je peux avoir sur cette terre. Moi qui suis un évangéliste, quand quelqu'un se tourne vers Jésus, c'est le plus magnifique fruit que j'ai. Vous m'en donnez un par an, ça me va. Alors s'il y en a plusieurs, hein, c'est une salade de fruits, j'y vais. Hein. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Et le dernier, c'est notre joie, mais ça on l'a déjà vu. Donc, vous voyez, ces quatre caractéristiques, on les répète ensemble. La première, quelle est la première caractéristique ? Alors, non, non, là on parle du fruit. Les quatre caractéristiques d'un vrai disciple de Christ. Il est émondé par la parole. Il se laisse sanctifier. Il est attaché durablement à Jésus. Il chérit la parole de Jésus et il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. On va prier. Je ne sais pas si ce message vous a fait trembler, mais peut-être que vous vous dites, mais est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis chrétien? Eh bien, si tu doutes, moi je t'invite à prier et à dire, ok, je veux te donner maintenant ma vie et t'attends pas. Et si tu le fais maintenant, tu dis pas, ouais, je ferai ça à la maison, tu feras que dalle à la maison. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Si le Saint-Esprit a parlé à ton cœur ce matin, mon ami, repens-toi. Reconnais que tu es pécheur et loin de la perfection. Reconnais peut-être que tu as des mauvaises motivations. Que tu suis, tu viens à l'église, que tu sers, mais que tu fais juste le beau, la belle façade, la jolie banane chrétienne du dimanche. Mais Jésus voit l'intérieur, lui. Hein. Nous, on se fera berner. Honnêtement, des membres de l'UIG, il y en a probablement qui en font partie, qui ont la banane à l'extérieur, mais dans le cœur, et dont les fruits sont pourris, infects. Mais ça, tu le sais, toi. Moi, je ne le sais pas. Donc, je t'invite à demander à Dieu de changer, de transformer ta vie, de reconnaître qui tu es et ce que lui a fait pour toi à la croix.